Bonjour à tous et bonjour aux internautes qui nous suivent en différé. Et donc bienvenue à ce troisième cours de la série Programmer égale démontrer sur la correspondance de Kerry Howard aujourd'hui. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'armes de construction massive, les types inductifs et les prédicats inductifs. Et en fait, c'est un peu une réaction au cours précédent où on s'est beaucoup concentré sur les fonctions. Du côté de programmation et comment les typer de la manière la plus polymorphe possible, et du côté logique sur le fragment avec l'implication et le pour-tout. Et donc aujourd'hui, on va regarder le reste. Donc, dans les langages de programmation, on va regarder les autres structures de données, au-delà des types de base comme les nombres et les fonctions. Et dans les logiques, on va s'intéresser aux autres connecteurs, comme par exemple la conjonction, la disjonction, la négation, le faux, il existe. Et puis aussi, comment définir les objets manipulés par la logique. Par exemple, comment est-ce qu'on définit les entiers naturels? Ça, c'est une question qui a agité les logiciens pendant un moment. Et les prédicats sur ces objets. Et la réponse qu'on va essayer de donner aujourd'hui va être dans l'esprit de Curie et Howard, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner la même réponse aux deux questions. Mais pour commencer, je voudrais faire un petit historique des structures de données dans les langages de programmation. Donc dès Fortran, donc dès 1957 et dans presque tous les langages qui ont suivi, on a des types de base, des nombres, des entiers, des réels, entre guillemets, plutôt des nombres à virgule flottante, des complexes aussi à virgule flottante, peut-être des caractères, éventuellement des chaînes de caractères, ce genre de choses. Et puis, sur ces types de base, on peut construire des tableaux à une ou plusieurs dimensions avec des indices qui sont des entiers. Et avec ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. On peut faire du calcul numérique, bien sûr, mais on peut aussi encoder des indirections et des structures de données chaînées en utilisant de manière intelligente des indices de tableau. Donc ça, c'est la fameuse représentation des heaps, des arbres tournois, où le nœud qui est à l'indice, à la position i dans le tableau a ses deux fils aux positions 2i et 2i plus 1. Et avec ça, on fait de très jolis algorithmes sur les arbres tournois. Deux années plus tard, donc 1959, COBOL introduit la notion d'enregistrement, record. Donc, dans un enregistrement, c'est une collection de champs, mais contrairement aux éléments des tableaux, ils sont nommés, les champs sont nommés, alors que les tableaux sont indicés par des entiers. Et puis, chaque champ peut avoir son propre type, d'accord ? Tous les champs ne sont pas forcément du même type. Et enfin, les champs peuvent être emboîtés. Donc ça, c'est un petit exemple de COBOL, avec un enregistrement emboîté ici. Et PIC 9 parenthèse 4, ça veut dire un nombre entre 0 et 9999. D'accord ? C'est très descriptif. Alors après, quand on programme en assembleur, au niveau de la machine, souvent on manipule aussi comme type de données, on manipule les adresses. L'adresse d'une autre donnée qui est stockée en mémoire, et ça permet de représenter des indirections, des structures chaînées, etc. Et donc cette pratique entre dans les langages de haut niveau en ALGOL W, 1966, donc c'est le travail d'Ekstra et Hoare, sous le nom de référence, et puis c'est plus connu peut-être aujourd'hui aussi sous le nom de pointeur, en C ou en Pascal. Alors un pointeur ou une référence, donc soit pointe vers un objet valide, soit peut-être nul. Alors, c'est ce que Hoare appelle faussement modeste son erreur à $1 milliard, parce que déréférencer un pointeur nul, c'est une erreur de programmation courante, et on estime qu'elle a coûté très cher. Voilà. Et du coup, quand on a des enregistrements et des pointeurs, on a un codage assez naturel des structures de données chaînées, des listes, des arbres, etc. Donc là, c'est en C, vous voyez une liste ici, vous voyez un arbre binaire ici, où donc chaque nœud de la liste porte un pointeur vers le prochain élément de la liste, ou bien nil, s'il n'y en a pas. Alors, pour voir les enregistrements comme des types et, d'accord, des conjonctions de plusieurs types, mais du coup, c'est quoi la disjonction, être d'un type ou d'un autre? Donc ça apparaît en ALGOL 68, sous une forme un petit peu, enfin à la fois intéressante et un peu étrange. Donc par exemple, on peut déclarer l'union de trois types, real, int et string. Et puis ensuite, quand on a une valeur de ce type, on peut discriminer, donc c'est une union discriminée, on peut interroger la valeur pour savoir dans quel cas elle se trouve, est-ce que c'est un réel, est-ce que c'est un entier, est-ce que c'est une chaîne, et accéder à la valeur à chaque fois, et puis l'utiliser. Mais on peut aussi avoir un quatrième cas, qui est, et sinon, peut-être par exemple si on a une variable non initialisée de ce type, je ne sais pas. Alors on retrouve le même mot de union en C, mais avec une sémantique un peu différente. Là, il n'y a pas de discriminateur, d'accord, c'est juste une même case mémoire qui est vue avec trois types différents. Et c'est la responsabilité du programmeur d'utiliser le bon type pour y accéder. En Pascal, on a une combinaison d'enregistrement et d'union discriminée qui est intéressante. Donc c'est le record case of. Une partie du record est commune, et puis là on a un discriminateur qui est généralement d'un type énuméré. Et suivant la valeur de ce champ, kind, on a d'autres champs qui sont présents ou pas. Alors, donc ça c'est pour les langages statiquement typés, où on déclare, le programmeur est censé déclarer ses structures de données. Avec Lisp, en 1960, apparaît une autre tradition, qui est bien vivante aujourd'hui dans tous les langages de script, Python, PHP, etc., JavaScript, etc., c'est d'avoir un type de données universelle. Donc en Lisp, ça s'appelle les S-expressions, et dans lequel on peut représenter beaucoup de structures de données. Donc une S-expression, c'est soit un atome, nombre, symbole, le symbole spécial nil, qui veut dire la liste vide en particulier, soit une paire de deux S-expressions. Et avec ça, on peut facilement représenter des listes, en emboîtant les paires vers la droite et les terminant par un nil, des termes construits, donc constructeur constant ou constructeur appliqué à n arguments, voire les textes de fonctions. D'accord. Et alors Prolog, lui, il utilise un autre type universel qui est inspiré davantage des algèbres de termes, qu'on utilise beaucoup en logique, aussi en théorie de la réécriture. Donc un terme, c'est alors soit une feuille, donc un nombre ou un atome, juste un nom. Ça peut être une variable d'unification, parce que Prolog manipule aussi des termes avec variables. Et puis ça peut être un atome appliqué à un ou plusieurs termes, donc un constructeur avec des arguments. Alors, revenons sur les langages typés et parlons un peu de LCF-ML. Donc, c'est l'ancêtre des langages de la famille ML. C'est le langage de script, le métalangage que Robin Milner avait développé pour scripter, pour piloter son prouveur LCF. Et donc, c'est un langage qui est statiquement typé. Mais alors, il n'y a pas de mécanisme pour déclarer des types enregistrement ni des types union. Il y a juste des types prédéfinis, flèche, produit et somme. D'accord. Donc, le produit qui est noté avec un dièse, bon, on le noterait plutôt avec une étoile aujourd'hui, c'est vraiment le produit cartésien. Les valeurs de ce type, c'est les paires d'une valeur d'un type T1 et d'une valeur d'un type T2. Et la somme, c'est une alternative. C'est soit une valeur de type T1, soit une valeur de type T2 avec un discriminateur. Et donc ça, c'est des types qu'on a déjà rencontrés au premier cours, via Curie Award. C'est le type produit, ça correspond à la conjonction, et le type somme à la disjonction. D'accord ? Alors, donc il n'y avait pas au LCFML le mécanisme de déclaration de nouveaux types. En revanche, on pouvait le faire quand même via un mécanisme d'abstraction de types, qui permet donc de définir des types en leur donnant un nom, éventuellement récursif, comme en donnant une implémentation sous forme d'une expression construite avec des sommes et des produits, des plus et des dièses. Alors c'est un petit peu difficile à lire, mais je vais vous le lire à voix haute. Donc là, par exemple, on définit le type des arbres avec un paramètre de type, donc l'étoile, c'est le paramètre de type. Et donc un arbre avec des étoiles aux feuilles, c'est quoi ? C'est soit une étoile, ça c'est le cas feuille, soit un produit de deux arbres avec des étoiles aux feuilles. Et donc ça c'est le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Et après, dans cette déclaration, après il faut définir les différentes opérations sur cet arbre, donc des constructeurs, leaf pour construire une feuille, node pour construire un nœud à deux fils T1, T2, et puis un discriminateur pour savoir si on est dans le cas leaf ou dans le cas node, et puis des projections pour extraire la valeur d'une feuille, le fils gauche d'un arbre, le fils droit d'un nœud, pardon, sachant qu'évidemment elles peuvent échouer. Si on les applique à un arbre de la mauvaise forme. Bon. Et donc, on en arrive à ce qui va nous occuper essentiellement beaucoup aujourd'hui, c'est les types algébriques. Donc ça, c'est arrivé vers 1980, dans le langage purement fonctionnel HOPE, et ça a ensuite été repris par Robin Milner à Édimbourg, par Guy Cousineau à Paris, pour l'intégration dans CAML et dans Standard ML. Et puis maintenant, c'est un très standard des langages fonctionnels, Haskell, etc. Et aussi même de langages comme Swift et Rust, qui ne sont pas uniquement fonctionnels. Donc essentiellement, c'est un moyen commode pour définir des sommes de produits de type qui soient récursives. Donc là, par exemple, on veut représenter symboliquement des expressions. Donc on a une somme à 4 cas. Chaque cas est discriminé par un constructeur, donc qui indique dans quel cas on est, const, infinity, sum ou prod. Et chaque constructeur porte 0, 1 ou plusieurs arguments. Donc pour le cas const, on a un argument qui est un entier. Le cas infinity, on n'a pas d'argument, c'est une constante. Et les cas sum et prod, on a deux arguments qui sont récursivement du même type exp. D'accord ? Donc on a aussi la récursion qui est intégrée dans ce mécanisme. Et alors, comment on utilise un tel type après déclaration ? Bon, je crois que vous connaissez, mais pour construire des valeurs du type, on applique les constructeurs, d'accord ? Un peu comme si c'était des fonctions. Et pour utiliser les valeurs du type, on a une construction de filtrage, pattern matching en anglais, donc match E with, où ici, on peut donner différents cas sous forme de motifs. Donc ça, c'est un filtrage simple, il y a exactement un cas par constructeur, et puis c'est juste des variables qui vont être liées aux arguments du constructeur. Après, on peut aussi envisager des filtrages plus compliqués avec des motifs qui sont plus complexes. Par exemple, qui const de 0, par exemple, ce serait un motif plus complexe. Mais on ne va pas avoir besoin de plus que ça aujourd'hui. J'en arrive maintenant aux types inductifs. Donc les types inductifs, c'est essentiellement les types algébriques, mais à la sauce de la théorie des types, donc à la sauce de ces systèmes, ces lambda calculs typés qui peuvent aussi être utilisés comme des logiques, comme le calcul des constructions, la théorie des types de Martin-Neuf, etc. Donc qu'est-ce qu'on a en plus par rapport aux types algébriques de ML ? On a des dépendances, on a droit à des types dépendants dans les types des constructeurs et aussi dans les sortes des types inductifs, donc on va voir à quoi ça nous sert. En revanche, on a quelque chose en moins, c'est qu'on a des restrictions sur la forme des déclarations et sur les récursions qu'on peut faire sur les types afin de préserver la terminaison, la normalisation forte. Parce que si on n'a pas la normalisation forte, on a des incohérences logiques, comme on va le voir, et donc ça rend le système inutilisable comme une logique. Toujours utilisable comme un langage de programmation, mais plus comme une logique. Et donc, pour autant que je sache, ces types inductifs, ça a été introduit par donc Christine Poulin-Morin et Frank Fenning en 1989 comme une extension du calcul des constructions. Depuis, donc c'est une notion qui est primitive dans Koch, dans AGDA, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres prouveurs, comme Isabelle Hachoel, mais plutôt sous forme encodée en théorie des ensembles. Donc c'est quoi un type inductif ? C'est la même idée qu'un type algébrique, somme de produits plus récursion, avec peut-être une vision un petit peu différente, ou peut-être plus facile de raisonner dessus. Donc ça, c'est la syntaxe, c'est une des syntaxes Koch pour définir le type inductif des expressions symboliques, le même qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, vous voyez, on liste les constructeurs, une fois de plus, et on donne leur type. Donc vraiment comme si c'était des fonctions ou des constantes. Alors, c'est des fonctions qui doivent produire un exp ou des constantes qui doivent être de type exp, le type qu'on est en train de définir. Et l'idée, la bonne intuition à garder en tête, c'est que ce type exp, ça va être l'ensemble des valeurs engendrées par ces constantes et ces fonctions. D'accord ? Donc, vous partez des constantes, infinity, et puis vous partez aussi de tout ce que vous pouvez obtenir en appliquant const à un nombre naturel, un entier naturel, et puis vous saturez ensuite par sum et prod. D'accord, on appelle le plus petit ensemble qui contient les constantes et qui est stable par les fonctions. Donc c'est vraiment le type engendré par ces constructeurs. Voilà. Alors avec ça, on peut définir des types de données qui nous sont tout à fait familiers. Les booléens, par exemple, c'est un type inductif à deux constructeurs, true, false, sans argument. Le type unit, il n'y a qu'une valeur de ce type, donc c'est un constructeur TT de type unit. Alors on peut aussi avoir des types à zéro constructeur. Ça fait un type vide, il n'y a pas de valeur de ce type, et c'est très utile pour représenter, via Curie-Howard, l'absurdité, le faux. D'accord ? Le faux, c'est quelque chose qui n'a pas de démonstration, et donc c'est un type qui n'a pas de valeur. Alors, les fameux entiers naturels, qui ont tant agité les logiciens du début du siècle, on peut tout à fait les représenter, par exemple dans le style de Giuseppe Peano, comme une constante 0, O, et une opération successeur. Donc le successeur, c'est un constructeur qui prend un nat et vous rend le nat suivant. Alors, il y a une différence peut-être avec les algèbres de termes usuels qu'on manipule en réécriture, par exemple, qui est que les types inductifs, comme les types algébriques en Camel ou en SQL, peuvent contenir des fonctions comme argument de constructeur. D'accord. Et alors un exemple un peu matheux, mais que j'aime bien, c'est une notation ordinale qu'on associe souvent à Brauer. où on dit que donc un ordinal c'est 0, ou c'est le successeur d'un ordinal, ou c'est la limite d'une suite d'ordinaux. Donc une suite indexée par des entiers naturels, donc c'est une fonction des entiers naturels dans les ordinaux. Et l'idée de ce constructeur limite, c'est qu'il va vous construire un ordinal qui est strictement plus grand, immédiatement plus grand que tous les éléments de la suite. D'accord ? Et comme ça, on peut définir l'ordinal oméga et au-delà, mais on ne peut pas aller quand même très très loin. Bon. Donc c'est une notation sympathique pour les ordinaux, pas trop grand, et c'est surtout, ça illustre le point que je voudrais souligner ici. Donc si maintenant on voit une valeur de type inductif comme un arbre, d'accord, un objet familier des informaticiens, une valeur de type inductif n'est pas nécessairement finie. Alors c'est vrai par exemple pour le cas NAT, ici, d'accord, on a forcément un nombre fini de S et puis on termine par un 0. Ici en revanche on est d'ailleurs infini en largeur, d'accord, un nœud limite branche infiniment en largeur, il a une infinité de sous-arbres. En revanche on n'est pas infini en profondeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de branche infiniment longue. Et c'est ça qui permet toujours de faire des raisonnements ensuite par récurrence sur la structure de ces objets. Mais avant de parler de récurrence, donc parlons. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir des paramètres. Donc on peut paramétrer un type inductif par d'autres types ou même d'autres valeurs. Et du coup, les constructeurs deviennent polymorphes. Donc ça, c'est le cas du type des listes. D'accord, il y a un paramètre grand A qui est un type, donc qui est dans l'univers type. Et du coup, ça nous donne et qui est le type des éléments des listes, d'accord. Et du coup, le constructeur nil, en fait, il faut lire son type comme pour toute A, je vous renvoie à une liste de A. Et cons, c'est pour tout A, si vous me donnez un A qui va être la tête de la liste et un liste de A qui va être la queue de la liste, je vous renvoie une liste de A. Alors avec ça, on peut donc définir les produits cartésiens ou les sommes binaires, les choses qui étaient prédéfinies dans LCFML. Donc le produit cartésien, deux paramètres de type A et B, un seul constructeur qui forme une paire d'un A et d'un B. Et le type somme binaire, deux paramètres de type A et B, et deux constructeurs, suivant qu'on injecte un A ou un B dans le type somme. D'accord ? Bien. Et alors, par la magie de Curie-Howard, ces types inductifs sont aussi utilisables comme connecteurs logiques. D'accord ? Je l'ai déjà fait remarquer, mais le produit cartésien, c'est la conjonction, la somme binaire, c'est la disjonction, le type vide, c'est l'absurdité, et le type unit, un élément, c'est la vérité. D'accord ? Alors, bon, Koch ayant une structure d'univers un petit peu plus compliquée que les autres, on l'a vu à la fin du dernier cours, donc dans Koch, il y a deux univers, il y a prop qui désigne plutôt ce qui est formule logique et démonstration, et type qui est plutôt ce qui est structure de données et calcul, même si la limite n'est pas aussi claire que ce que je viens de dire. Et donc Koch redéfinit, après avoir défini les paires, les types produits et les types sommes, redéfinit les conjonctions et ou, mais c'est exactement les mêmes définitions, on change un petit peu les noms, et maintenant on est dans l'univers propre, et donc on prend deux propres en argument et on renvoie une propre en résultat. D'accord ? Mais sinon, c'est vraiment la même structure, on a la conjonction donc qui construit une paire d'une démonstration de A et d'une démonstration de B, on a le OU qui, avec deux constructeurs qui construisent une démonstration soit à partir d'une démonstration de A, soit à partir d'une démonstration de B, on a le trou, la formule logique qui est toujours vraie, la vérité, qui a un constructeur, I, et le faux, l'absurdité, qui a zéro constructeur. Voilà. Alors, un point intéressant aussi, c'est qu'un constructeur peut avoir des types dépendants. Donc, les constructeurs du type peuvent avoir des types dépendants où le type d'un des arguments dépend de la valeur d'un autre argument. Et ça, alors par exemple, ça permet de représenter les paires dépendantes. Donc c'est un type qui apparaît dans la théorie des types de Martin Löf, sigma x de point A, point B de x, donc qui est une paire d'un x de type A et d'un autre élément de type B de x, et qui, par Curie-Howard, correspond exactement au quantificateur « il existe ». D'accord ? Il existe un x de type A et une démonstration du fait que P de x est vrai. Et donc ça se représente comme ça. Donc on a deux paramètres, grand A qui est un type, le type de X ici, et grand B qui est une famille de types, donc indexée par des petits a de type grand A. Donc pour tout petit a de type grand A, B va vous envoyer un type. Donc B est une fonction de grand A dans les types. D'accord ? Et ça vous donne un type. Et il y a un constructeur qu'on peut appeler existe, et qui va donc prendre un premier argument petit a de type grand A, un second argument de type B de petit a, D'accord ? Donc c'est là qu'est la dépendance. Le type du second argument dépend de la valeur du premier. Et vous renvoyez un élément du sigma, du type sigma. Alors encore une fois, c'est un peu plus compliqué en coq parce qu'on a une distinction entre prop et type. Donc en fait, on a trois formes de sigma que vous pouvez trouver dans la bibliothèque standard et qui viennent avec des notations un peu plus évocatrices, mais par derrière, c'est vraiment trois variantes de ce type ici où on joue sur les univers. Donc grand A est toujours dans type, mais ici et là, on peut avoir soit des props, soit des types. Et donc, par exemple, si le résultat, c'est dans prop et la famille B de X est dans prop, la notation, c'est le quantificateur, il existe. D'accord ? C'est vraiment la notation. Il existe un X de type A tel que la formule logique B de X est vraie. Si le résultat est dans type, cette fois-ci, donc on le voit plus comme une structure de données, quelque chose qu'un programme peut manipuler, mais la seconde partie de la paire B de X est dans prop, ça réalise un type sous-ensemble. D'accord ? Donc ça, les valeurs de ce type, c'est des paires d'un X de type grand A et d'une preuve que B de X est vrai. Et par exemple, ça peut représenter, je sais pas, les nombres entiers entre 0 et 10. D'accord ? Ce sera un X de type Z et une preuve que 0 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 10. D'accord ? Donc on voit bien l'aspect sous-ensemble ici. Et puis, on peut avoir le résultat dans type et le B de X dans type. Et là, c'est vraiment une paire, au sens structure de données, d'un X de type A et d'un autre chose, d'un Y de type B de X. Donc une généralisation du produit cartésien. Alors, j'ai parlé du type sigma, qui est un type de base, un constructeur de type de base dans la théorie théorie des types de Martin Löf. Alors, il y a un autre composant de la théorie des types de Martin Löf qui est assez fascinant et qui est aussi définissable comme un type inductif. Donc, c'est le type W des arbres bien fondés. excusez-moi. Donc l'idée, c'est vraiment un type qui est vraiment très, très dépendant. L'idée, c'est de représenter donc des arbres qui, à chaque nœud, portent une étiquette, petit L, de type grand L. D'accord ? Et petit L va déterminer le nombre des sous-arbres récursifs, il va y avoir via un type dépendant. Donc on a grand A, qui est une famille de types indexée par les étiquettes, donc une fonction de grand L dans type, et donc un nœud qui porte une étiquette petit L porte grand N, porte des sous-arbres qui sont indexés par le type grand A de L. D'accord ? Donc si c'est un type fini, à n éléments, ça veut dire qu'on aura n sous-arbres et qui sont indexés par les n valeurs du type. Si c'est un type infini, comme Nat, ça veut dire qu'on aura une infinité, une forêt infinie de sous-arbres indexés par des nombres entiers. Et donc ça se représente assez simplement comme un type inductif à un seul constructeur, node, à deux arguments, label de type grand L, et une fonction de grand A label vers le type lui-même qui énumère les sous-arbres. Alors vous pouvez dire, mais c'est pas inductif, ça s'arrête jamais. Là. Où est le constructeur de base ? D'accord, on est toujours récursif. Le constructeur de base, c'est quand le type grand A de LBL est vide. Auquel cas, là, il n'y a pas de sous-arbre. D'accord ? Et donc, on a une feuille. Bon. Alors voilà quelques exemples pour que vous voyez que ça marche. Alors, on va supposer qu'on a trois types empty, unit et bool qui sont prédéfinis, donc avec 0, 1 et 2 valeurs à chaque fois. Alors le type NAT, c'est un W donc, qui est étiqueté par des booléens. False, ça va vouloir dire 0, et true, ça va vouloir dire successeur. Et dans le cas 0, on n'a aucun sous-arbre. D'accord ? Donc ici, on prend le type empty. Et dans le cas successeur, on a un sous-arbre. Donc ici, on prend le type unit, qui est un élément. Alors, vous voyez qu'on peut tout à fait filtrer sur faire une analyse de cas sur un booléen et renvoyer des types. C'est une des joies des types inductifs. Pour les listes de A, les étiquettes, c'est des options de A. None voulant dire nil, somme de A voulant dire une liste non vide dont la tête, c'est petit a. Et dans le cas none, c'est-à-dire nil, on n'a pas de sous-arbre. Dans le cas somme, on a un sous-arbre. Pour des arbres binaires avec des A aux feuilles et des B aux nœuds, ça va être A plus B, nos étiquettes. Dans le cas A, on a une feuille étiquetée par un A, on n'a pas de sous-arbre. Dans le cas B, on a deux sous-arbres, etc. Mais alors justement, donc on a vu comment on définit des types inductifs, on sait qu'on peut construire des valeurs en appliquant les constructeurs. Maintenant, comment est-ce qu'on raisonne, comment est-ce qu'on utilise une valeur de type inductif? Comment on élimine un terme de type inductif? Eh bien, c'est par un de ces filtrages, une de ces analyses de cas qu'on a déjà vu là. Donc il faut un cas par constructeur. Par exemple, pour un booléen, d'accord, il faudra un cas true, un cas false. Et vous pouvez, par exemple, inverser, renvoyer false dans le cas true, true dans le cas false. Ça vous donne la négation au niveau des booléens. Et si le constructeur a un ou plusieurs arguments, vous allez lier des variables. Et donc, par exemple, le prédécesseur sur l'entier de Peano. Le prédécesseur de 0, c'est 0. Et le prédécesseur de S de P, c'est P. D'accord ? Rien de très surprenant. Et via Curie-Howard, le filtrage correspond à une démonstration par cas, une analyse de cas dans une démonstration. Par exemple, théorème, une propriété est vraie pour tout B de type bool si elle est vraie pour le cas B égale true et si elle est vraie pour le cas B égale false. D'accord ? J'ai juste à montrer le résultat pour ces deux cas et j'aurais montré le résultat pour tout booléen. Et donc ça, c'est l'énoncé. Et ça, en fait, c'est le terme de preuve qui convainc Koch que c'est vrai, et qui est une analyse de cas sur B, et avec dans le cas true, on envoie le cas P de true, et dans le cas false, le cas P de false. Bien sûr, il y a aussi des tactiques qui permettent de construire ce genre de démonstration de manière interactive, sans avoir à écrire le match à la main. Donc ça, c'est la forme générale d'un filtrage. Si vous avez un inductif à n constructeurs, c'est un CN, d'arité A1 à n, donc vous allez avoir n cas, n lignes, pour chacun des constructeurs C1, Cn, qui vont porter 0, 1 ou jusqu'à son arité de variables qui vont être liées au constructeur. Et dans chacun des nk, on a un membre droit, B. Et la règle de réduction, ben c'est si le E sur lequel on filtre, c'est en fait un constructeur, le im constructeur appliqué à des arguments E1, EAI, alors, on va sélectionner le im membre droit, bi, et substituer les variables liées par le pattern, liées par le motif, par les arguments effectifs du constructeur. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des indices et des exposants dans tous les sens, mais par exemple, sur les entiers naturels, ça va être très très clair. Si vous filtrez la valeur O, la valeur 0, c'est le cas 0 qui s'applique, donc vous vous réduisez en A, et si vous matchez une valeur S de N, pour une expression N quelconque, c'est le cas S de P qui s'applique, et vous vous réduisez en B, où P est remplacé par N. Alors, il y a une alternative à la construction de filtrage, ce match. Et en fait, historiquement, quand Paul Amoring et Fanning ont proposé ça pour Koch, en fait, il n'y avait pas encore de construction match. Il y avait plutôt une définition d'une fonction de récursion, d'un récurseur, une fonction qui permet d'analyser les valeurs de type et aussi de faire de la récursion, chose qu'on n'a pas encore vue. Et donc, l'idée pour un type T qui a n constructeurs, vous avez un récurseur... Bon, typiquement est nommé t underscore rec, et qui prend une valeur du type et qui prend n arguments supplémentaires qui correspondent au nk. Alors si c'est des constructeurs constants, c'est juste des expressions constantes qu'il faut renvoyer dans ce cas-là, et puis ça peut être des fonctions si on a des constructeurs non constants. Alors c'est plus clair sur quelques exemples. Donc pour les booléens, votre récurseur boolrec, il prend donc deux k a et b. Si la valeur analysée est true, il renvoie a. Si la valeur analysée est false, il renvoie b. Pour un type option. Donc si c'est known, c'est le premier cas A qui est renvoyé. Si c'est somme de X, c'est le deuxième cas B appliqué à X qui est renvoyé. D'accord ? Donc B, ça va être une fonction de l'argument de somme vers le résultat attendu. Et pour un type récursif comme NAT, donc dans le cas de base 0, ça va être A qui est renvoyé. Et dans le cas récursif S de N, ça va être B appliqué au résultat de la récursion sur N, sur l'argument du constructeur S. Et donc c'est ça qui introduit en fait un calcul récursif. Et alors c'est une forme de récursion assez simple que j'appellerais itération. Certains appellent ça la récursion primitive, mais c'est un terme qui est un peu surchargé. Les appels récursifs se font uniquement et se font toujours sur les arguments immédiats des constructeurs récursifs. D'accord. Donc par exemple, sur les entiers de Peano, toujours, si vous voulez définir la fonction x2, qui vous renvoie le double d'un entier de Peano, ça a la bonne forme. Parce que dans le cas 0, vous renvoyez 0. Dans le cas S de P, vous renvoyez double de P plus 2, c'est-à-dire le successeur du successeur de double de P. Donc ça a la bonne forme. Vous avez fait la récurrence sur un argument immédiat de N, et ensuite, vous rajoutez des choses autour. Bon. En revanche, si vous regardez la définition naïve de la fonction de Fibonacci, d'accord, où là, vous avez deux appels récursifs. Alors, il y en a un qui se fait sur P, qui est bien un sous-terme immédiat de N, et l'autre, il se fait sur Q, qui est N-2, et celui-là, ça n'est pas un sous-terme immédiat. Et donc ça, on n'arrive pas facilement, enfin, on n'arrive pas directement à le décrire par itération. En revanche, si vous voulez un petit exercice, il y a une fonction un peu plus rusée qui calcule en fait à la fois fib de n et fib de n plus 1, qui elle peut être mise sous forme d'itération. Alors, l'autre manière qui est venue après dans des systèmes comme Coq, donc, c'est d'introduire un filtrage primitif, match. Et pour qu'il traite les types récursifs, il faut qu'il soit les types inductifs qui comprennent de la récursion, il faut le combiner avec un mécanisme pour définir les fonctions récursives. Donc c'est ce qu'on note letrec en camel, c'est ce qu'on note fixed point en coq. Et donc là, vous voyez les fixed points qui correspondent à nos deux exemples précédents, la multiplication par deux, où on récurse donc sur un sous-terme immédiat de n, et la fonction Fibonacci, où on récurse sur un sous-terme strict. D'accord, mais pas immédiat. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la condition de garde. Donc toutes les récursions ne sont pas acceptées, mais en première approximation, celles qui sont acceptées, c'est celles où on récurse sur un sous-terme strict de l'argument récursif, mais pas forcément immédiat. Et on peut appeler ça la récursion structurelle. Alors pourquoi cette haine, cette peur des fonctions, des récursions qui ne terminent pas ? C'est qu'en fait, presque toujours, si on peut définir une expression qui boucle, qui se réduit à l'infini, on peut en fait lui donner un type vide, comme false et empty, ce qui introduit une contradiction logique. Parce qu'à partir d'un type vide, en l'éliminant, vous pouvez prouver n'importe quelle proposition P. D'accord ? Un type vide, et avec une récursion infinie, vous construisez un terme de ce type, il y a une contradiction. Par exemple, une boucle idiote, vous appelez récursivement sur S de N, d'accord, donc y a pas de, on ne va jamais s'arrêter, on peut tout à fait lui donner le type false, donc c'est une démonstration de l'absurdité logique. Et une fois que vous avez un terme de type false, bien sûr, vous avez une démonstration de n'importe quelle proposition. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de récursion générale dans des langages comme Coq ou AGDA, qui sont aussi utilisables comme des logiques. Donc il faut faire attention aux récursions dans les fixed points. Mais il faut aussi faire attention à la manière dont on définit nos types inductifs. Et il y a une condition de positivité qui est essentielle. Donc dans les constructeurs d'un type inductif, le type inductif lui-même doit apparaître en position strictement positive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là j'ai essayé de dessiner ce que ça veut dire. C'est en fait la position par rapport aux différents types flèches, d'accord ? Donc tant que vous restez à droite d'un type flèche, vous êtes strictement positif. Dès que vous passez à gauche en position d'argument, vous devenez négatif. Et si vous repassez à il y a une petite erreur là. Si vous repassez à gauche, vous rechangez de signe, donc vous devenez positif, mais pas strictement positif. Et donc en d'autres termes, une occurrence strictement positive, c'est que vous êtes à gauche de zéro flèche. Une occurrence positive, vous êtes à gauche d'un nombre pair de flèches. Et une occurrence négative, vous êtes à gauche d'un nombre impair de flèches. Bon. Et alors, quel est le problème des occurrences négatives ? Ben, si vous avez votre prédicat inductif en occurrence négative, vous avez immédiatement une contradiction. D'accord ? Si vous pouvez définir la proposition logique P, qui a un seul constructeur, qui est la négation de P, donc P flèche false, et donc vous voyez bien que là, P, il est immédiatement à gauche d'une flèche, donc il est en position négative. Alors, c'est facile de montrer l'équivalence logique entre P et sa négation non P, et d'où vous déduisez un paradoxe. Maintenant, si vous êtes plutôt dans type, si c'est une structure de données que vous définissez, vous pouvez aussi obtenir des paradoxes, par exemple, par un codage du lambda calcul pur. Donc ce type lame, qui est un seul constructeur lame, qui prend une fonction des lames dans les lames, d'accord, c'est en fait, il est isomorphe au terme du lambda calcul pur, et vous voyez l'occurrence négative ici de lame, parce que ben, vous pouvez définir l'application d'un lame à un lame, d'accord, et puis vous pouvez définir des fonctions comme la fonction identité, d'accord, c'est lame de fun x flash x, et puis vous pouvez aussi définir le delta, la fonction qui applique x à lui-même, et puis le oméga, l'application de delta à delta, et ça, on sait bien que ça se réduit à l'infini. Et à partir de ça, on peut aussi prouver une contradiction. Donc ça, c'est pourquoi on ne veut pas de type d'occurrence négative. Alors pourquoi on ne veut pas d'occurrence doublement négative, c'est-à-dire positive, mais pas strictement positive ? Alors c'est un peu plus subtil, donc ça c'est un paradoxe qui est dû à Thierry Coquand. Donc si on pouvait définir ce type, d'accord, à un constructeur, à un trop, qui est un argument type A flèche propre, alors comment il faut lire ça ? A flèche propre, par exemple, c'est un sous-ensemble, c'est un ensemble de A, d'accord ? Et donc A flèche propre, c'est un ensemble d'ensemble de A, par exemple. Et donc si on peut définir ça, et du fait que, du coup, on peut définir cette fonction F, qui prend un A flèche propre et vous renvoie un A, et on peut montrer que c'est une injection. Donc c'est une fonction qui injecte les ensembles de A, les parties de A, dans A. Et ça, en théorie des ensembles, ça sent très mauvais, parce qu'il y a un paradoxe de cardinalité, d'accord ? Les parties de A ont un cardinal strictement plus grand que A. Et ce paradoxe, en fait, on le reproduit tout à fait en théorie des types, avec une diagonalisation à la Cantor qui nous produit une contradiction. Voilà. Donc, ce n'est pas bien non plus d'avoir des types inductifs, en l'occurrence, doublement négatifs. Donc je passe maintenant à un petit raffinement des types inductifs, qui sont les familles inductives. Donc jusqu'ici, on a vu des types inductifs éventuellement paramétrés. Et donc, sur quoi porte la récursion ? D'accord ? Pour un type inductif paramétré, c'est une fonction qui prend les valeurs des paramètres et ensuite construit un type récursif. En d'autres termes, les paramètres ne changent pas dans les types des constructeurs. On voit ça, par exemple, pour les listes. D'accord ? Le paramètre A est le même pour ici, pour la sous-liste, la queue de la liste et pour la liste elle-même. Dans une famille inductive, on va définir une fonction récursive des paramètres vers un type. Donc la fonction va pouvoir récurser avec des valeurs différentes des paramètres, puisque c'est une fonction récursive. Et alors, bon, là c'est un exemple complètement trivial, on va voir des exemples plus intéressants après. Mais donc ici on définit T, qui est vraiment une fonction des types dans les types. Donc c'est un type à un paramètre, mais qui est vraiment une fonction des types dans les types. Et du coup, dans le constructeur A, il peut avoir le type T d'un certain type, un T de Nat, et un autre constructeur B peut avoir un autre type T de Boole. Bon, là sur cet exemple, on ne voit vraiment pas à quoi ça sert. Alors voilà des exemples un peu plus intéressants, où maintenant on est paramétré, non pas par des types, mais par des valeurs de type Nat. Après tout, on peut le faire. Et donc par exemple, ce type inductif ici, il vous décrit les entiers entre 0 et n. Donc fin de n, n est un entier naturel, c'est le type des entiers entre 0 et n. Et il a deux constructeurs, 0 qui est dans fin de n pour tout n, 0 est entre 0 et n, alors c'est pas strict, hein, c'est 0 et n inclus. Donc 0, il est bien entre 0 et n pour tout n, et le successeur, étant donné un n et un nombre entre 0 et n, il vous renvoie un nombre entre 0 et n plus 1. D'accord ? Et donc là, on voit l'aspect, on récurse sur une autre valeur du paramètre. Alors après, on peut aussi combiner paramètres et familles inductives. Et par exemple, c'est l'exemple des vecteurs A, donc des vec A n, ce sont les listes d'éléments de type A qui a la longueur n. Donc le type des éléments A, c'est un paramètre, il ne change pas dans la récursion. Et la longueur, en revanche, elle change dans la récursion, elle vaut 0 pour nil. Et pour le cons, la queue de la liste est un vec à n, et on construit un vec à successeur de n, une liste à n plus 1 élément. D'accord ? Donc voilà, donc le rouge, c'est la partie qui change, et le bleu, c'est la partie paramètre qui est invariante. Et alors encore une fois, si vous avez envie de vous exercer avec ce genre de type, vous pouvez essayer en Coq ou en Agda de définir une fonction sûre d'accès au n-ième élément d'une liste. En général, l'accès au n-ième élément d'une liste peut échouer si n est trop grand et sort de la liste. Là, en revanche, on peut donner un type très précis qui est que si on a une liste de longueur successeur de n et un index qui est entre 0 et n compris, on est forcément dans les bornes de la liste et on va forcément produire une valeur de type A. Mais en fait, une utilisation plus importante, enfin très importante aussi de ces familles inductives, c'est pour définir des prédicats. Donc des prédicats inductifs, donc là plutôt des choses qui sont vues comme des propositions paramétrées. Et en fait, ça permet de transcrire très facilement les définitions par système de règles d'inférence. Donc si vous vous rappelez même les systèmes de type ou la présentation de la logique intuitionniste qu'on avait vue au premier cours ou au deuxième cours, c'est des systèmes de règles d'inférence. Il y a des axiomes et des règles avec des prémices en dessous de la barre et une conclusion en dessous. Et ça, ça se transcrit de manière mécanique sous forme de prédicat inductif. Votre prédicat P à n arguments de type A1 à n, ça devient donc un type inductif de la sorte A1 flèche A n flèche propre. Les axiomes, c'est des constructeurs constants. Et les règles d'inférence à K prémices, ça devient des constructeurs à K arguments. Et maintenant, si vous faites de la récursion structurelle sur ce prédicat P, sur les valeurs de ce prédicat P, c'est-à-dire sur les démonstrations, ça vous donne un principe de preuve par récurrence très très puissant, qui est une récurrence sur la structure de la dérivation et par cas sur la dernière règle d'inférence utilisée. Alors un exemple, pour que ce soit plus concret, alors là on a un prédicat très bête sur les entiers de Peano, c'est le prédicat être pair, even. Donc even est vrai pour 0, c'est un axiome, et si even est vrai pour n, alors even est vrai pour successeur de n, pour n plus 2. Et le prédicat even, c'est celui qui est engendré par ces axiomes et ces règles d'inférence. Et donc ça devient une famille inductive, donc de type nat flèche propre, et avec deux constructeurs, even 0, qui correspond à l'axiome, et qui a le type even 0, et even s, qui correspond à la règle d'inférence, et qui vous dit que si vous avez un even de n, une dérivation de even de n, alors vous avez une dérivation de even de successeur de n. Et les valeurs de cet inductif, c'est les dérivations dans ce système de règles et d'axiomes. Alors, pour un exemple un petit peu plus costaud, donc c'est très utile pour représenter des logiques ou des systèmes de type. Donc là, c'est un fragment de la logique intuitionniste propositionnelle qu'on avait vu au premier cours, avec juste donc, les règles pour la vérité, l'absurdité et l'implication. Donc, on peut représenter les formules logiques la syntaxe abstraite des formules logiques par un type inductif des formules. Donc ça, c'est un type à la camel, d'accord, il n'y a pas de paramètres. Deux constructeurs constants, vrai, faux, et un constructeur pour l'implication. Et maintenant, les règles de déduction, ça va devenir un prédicat inductif que j'appelle sécant, qui a deux paramètres, une liste de formules, c'est l'environnement, c'est les hypothèses gamma, une formule, c'est la proposition P qu'on veut démontrer, et autant de constructeurs que de règles d'inférence. D'accord. Et donc là, je vous ai mis en parallèle la manière dont on écrit les constructeurs et les règles d'inférence. Et bon, je ne vais peut-être pas les lire toutes à voix haute, mais vous voyez, j'espère, la correspondance structurelle. Par exemple, pour vrai, qui est un axiome, on a juste un constructeur qui dit que pour tout environnement, on peut construire sécant G de vrai. Et pour l'élimination du faux, on a que si on a sequence de G de faux pour un certain environnement G, alors on a sequence G de P pour n'importe quel, pour le même environnement G et n'importe quelle proposition P. Eh bien, alors, deux autres exemples que je trouve assez impressionnants de prédicats inductifs. Il y en a un, c'est sur les ordres bien fondés et la récurrence noethérienne. Donc c'est quoi un ordre bien fondé? C'est un ordre dans lequel il n'existe pas de suite infinie strictement décroissante. D'accord. Donc on touche toujours le fond, finiment. Alors ça, c'est une caractérisation qui n'est pas très commode dans une logique intuitionniste, constructive, mais il y a une caractérisation plus davantage positive, qui est très jolie, qui consiste à dire que tout x, si c'est un ordre sur le type A, tout x de type A est accessible au sens où toutes les suites décroissantes issues de x sont finies. Et ça, ça se capture joliment par un prédicat inductif, ACK, qui est paramétré par le type, et puis par une relation binaire sur le type, donc c'est l'ordre strict. Et donc un élément x est accessible si, pour tout y strictement plus petit que x d'après l'ordre, y est accessible. Alors c'est une autre de ces définitions où on ne voit pas où est le cas de base. Et encore une fois, le cas de base, c'est quand il n'y a aucun y tel que ordre de yx, c'est-à-dire quand x est un élément minimal. Donc là, la prémisse est trivialement vraie, et donc les points minimaux sont accessibles, et puis les points juste au-dessus sont accessibles, les points encore au-dessus sont accessibles, et ça donne donc une caractérisation inductive des points accessibles. Et donc un ordre, il est bien fondé si tous les points sont accessibles, Et maintenant, quand vous avez un élément X de l'ensemble et une preuve que acte de X est vrai, vous pouvez faire une récurrence structurelle sur cette preuve, et ça vous donne exactement une récurrence noethérienne sur X, c'est-à-dire, dans votre hypothèse de récurrence, vous pouvez vous rappeler sur n'importe quel Y strictement plus petit que X. Et alors, un autre exemple qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai découvert tout ça, quand j'ai appris Koch il y a longtemps, c'est que en fait, même l'égalité peut être définie comme un prédicat inductif. D'accord, elle n'a pas besoin d'être prédéfinie, comme c'est le cas dans la plupart des logiques, ou même dans la théorie des types de Martin Löf. D'habitude, on prédéfinit la notion d'égalité et les règles de raisonnement spécifiques sur l'égalité, le remplacement d'un égal par un égal, par exemple. Et en fait, c'est définissable comme un prédicat inductif. Enfin, il y a même deux définitions possibles, mais en voilà une. Donc, étant donné un certain type A, c'est un prédicat de la sorte A flèche propre, donc une relation entre A. Et il a un seul constructeur, qui est l'axiome de réflexivité. C'est-à-dire que pour tout x, equal de x de x est vrai, est dérivable, trivialement, en appliquant ce constructeur. Et c'est en fait le seul moyen de construire des termes de la forme equal de x et de y. Et du coup, ben, quand on veut utiliser une hypothèse de la forme equal de x et de y, on va faire une analyse de cas sur cette hypothèse. Il n'y a qu'un seul cas à considérer, c'est le cas réflexivity z, et donc il suffit de montrer le résultat attendu p de xy dans le cas p de zz pour tout z, et une fois que vous avez montré ça, eh bien vous avez montré que equal xy implique p de xy pour tout x et pour tout y, ce qui est un remplacement d'un égal par un égal, hein. Mais juste pour vous montrer que ce n'est pas un principe de raisonnement spécifique, c'est juste une analyse de cas, comme les autres. Alors, on reviendra longuement là-dessus dans un cours en janvier, le 23 janvier, le cours qui est tout entier consacré à l'égalité et la version moderne qui est la théorie homotopique des types. Dans quelques mots sur les types algébriques généralisés. Donc c'est un peu, ça s'appelle les GADT, Generalized Algebraic Data Types en anglais. C'est en fait un peu un retour cette fois-là vers les langages de programmation, donc vers les types algébriques qu'on trouve dans les langages comme Camel ou Haskell. Et en fait, donc c'est un peu l'équivalent des familles inductives pour des langages de programmation comme Camel et Haskell qui n'ont pas de type dépendant dans toute leur généralité. Du coup, on a beaucoup moins de possibilités de paramétrisation d'un type, on peut pas paramétrer un type par un type, pas par une valeur. Mais dans ce cas-là, même dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir des constructeurs qui ne sont pas uniformes, c'est-à-dire qui ne renvoient pas tous le alpha ty, si on est en train de définir un type paramétré alpha ty, mais peuvent renvoyer des instances plus particulières. Alors voilà un exemple que j'emprunte à Yaron Minsky de Jane Street, un gros utilisateur des OCaml. C'est une représentation des tableaux de alpha, d'éléments de type alpha, qui est plus compact. Donc dans Camel, on prédéfinit un type alpha array, des tableaux dont les éléments sont des types alpha, mais ce type est générique, et donc il y a au moins un mot mémoire par valeur de type alpha. Après, il y a les cas particuliers. Par exemple, si on fait un tableau de type char, donc type char en Camel, c'est des entiers entre 0 et 255. Donc ça peut être codé sur un octet. Et donc au lieu d'employer un mot par élément du tableau, on peut employer un octet. Et d'ailleurs, il se trouve que dans la bibliothèque de Camel, il y a un type bytes des tableaux d'octets. Mais ce n'est pas le type char array. Et une fois qu'on a les bytes, on peut aussi faire des bit vectors avec un bit par booléen. Donc c'est des vecteurs de booléen représentés de manière très compacte avec un seul bit par booléen. Et donc, on peut mettre ces trois cas ensemble dans un type alpha compact array, d'accord, avec trois constructeurs. Array qui est le cas générique, donc qui s'applique à n'importe quel type alpha. Bytes qui ne s'applique que au cas d'un tableau de caractères. Et bools qui ne s'applique que au cas d'un tableau de booléen. Et après, par des analyses de cas, on peut définir des fonctions polymorphes, génériques, sur les alpha compact array, qui, en interne, dispatchent sur la représentation effective du tableau. Ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, ce concept de GADT, il a été réimporté. C'est en observant ce qui s'est passé dans le monde de Koch et théorie des types de Martin Löf et Agda et ainsi de suite, qu'est venue l'idée en fait de réintroduire ça dans les langages de programmation. Donc en 92, c'est Thierry Coquan qui montre comment combiner les familles inductives et du filtrage match. Mais avec, dans sa tête, l'idée de faire ça pour une logique. Et puis, alors il y a quelques précurseurs des GADT, des cas particuliers qui avaient été identifiés par exemple, dans la thèse de Constantin Laufer. C'est en 94 que donc, Lennart Augustsson et... j'ai oublié son prénom. Donc Augustsson et Peterson font circuler une petite note intitulée « Silly type families » où ils disent « Mais oui, il n'y a aucune raison d'avoir d'être obligé d'avoir des types réguliers pour les constructeurs. On peut faire des choses comme ça. » Et ils identifient le problème qui est pas facile d'inférer les types pour les filtrages match. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils ne publient pas cette note. Donc, c'est juste un manuscrit. Du coup, l'idée est redécouverte vers 2003, notamment par Han Weishi et ses étudiants Chen et Chen. Vers 2006, donc Simon Pennell-Jones et ses co-auteurs d'un côté, François Potier et Yann Régianas de l'autre, font les premiers algorithmes d'inférence partielle de type pour les filtrages sur les GADT, donc qui sont un peu le préalable pour l'intégration dans des langages fonctionnels. Donc 2007, une intégration dans Haskell et 2012 dans CAML. Voilà. Donc c'est un exemple intéressant d'idée qui revient du monde des assistants de preuve et de la théorie des types dans les langages de programmation. Alors, je sais pas si je... Bon, je vais vous montrer rapidement un exemple où les GADT sont utiles. C'est quand on a des valeurs et on a envie qu'elles déterminent des types. Alors, un exemple, c'est la fonction sprintf, d'impression formatée, dont le type varie suivant la valeur du format. C'est un petit peu bizarre. Donc, si le format, c'est juste une chaîne de caractères, vous obtenez une chaîne de caractères. Mais s'il y a des trous, par exemple, %d, qui veut dire un trou qui attend un entier, alors on a un argument de plus qui est type int. Et là, on a deux trous, un qui attend une chaîne, un qui attend un entier, ce qui nous donne deux arguments supplémentaires avant de produire une chaîne. Et alors, si on veut typer ça, on peut le faire avec un type de la forme alpha format flèche alpha. Et donc, les formats, ce n'est plus des chaînes de caractères, c'est des valeurs d'un GADT, alpha format. Et donc, le paramètre alpha, ici, il va en fait déterminer quels arguments on attend, combien on en attend et quels arguments on attend. Et par exemple, bon, si c'est le format vide, on n'attend pas d'arguments, donc le résultat va être type string. Mais si c'est si on a un paramètre entier, un %d, alors le format qu'on attend ensuite, il va attendre un alpha, et le format avec le paramètre devant, il va attendre un int flash alpha. On attend un paramètre de plus et il est de type int. D'accord. Pareil pour string. Et donc vous voyez que si vous encodez maintenant ces exemples dans ce GADT, vous obtenez exactement les bons types. Et donc vous pouvez écrire un printf statiquement typé, ce qui est très joli. Et en fait, de manière un petit peu plus générale, donc les GADT ils permettent d'encoder deux idiomes qu'on ne sait pas faire dans des langages comme Haskell ou CAML autrement. Le premier, c'est la quantification existentielle sur un type. Par exemple, il existe un type A tel que j'ai une valeur de type A et une fonction de A-string. D'accord ? Donc c'est une valeur que je sais convertir en chaîne de caractères. Donc ça se définit facilement par un GADT. Et on peut aussi définir l'égalité entre deux types, exactement comme on définit l'égalité en coq. Donc c'est un type à deux paramètres, alpha, bêta, et un témoin d'égalité, la constante equal, qui force ces deux paramètres à être égaux. Et alors si je mentionne ces deux utilisations particulières des GADT, c'est parce qu'il y a une réciproque, c'est-à-dire que tout GADT peut s'écrire comme un type algébrique usuel, plus des types existentiels et des égalités de type. Voilà. Bon, donc c'est tout ce que je voulais dire sur les GADT. Alors maintenant, enfin, très rapidement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je voulais quand même faire un petit retour historique et que j'ai déjà un peu mentionné. C'est, donc, initialement, les types inductifs n'étaient pas forcément une notion primitive, une notion prédéfinie, et avec une construction d'élimination prédéfinie. Parce qu'à très peu de choses près, on peut en fait les définir, les encoder dans les pure type systems du cours précédent. Donc avec uniquement des lambda termes et des p-types, d'accord, des p-types. Alors on part de codage non typé, qui est une généralisation du collège de Church des entiers dans les lambda termes purs. Donc, si vous vous souvenez, l'entier n s'était représenté comme une espèce d'itérateur, une fonction qui prenait une fonction n et qui composait f avec elle-même n fois. Et donc, en fait, on peut faire ça de manière assez systématique pour tous les types inductifs. Typiquement, on part des équations qui définissent le récurseur d'un type inductif. Donc, vous vous souvenez, les récurseurs pour boule et pour nat, par exemple. Puis, on va dire, les récurseurs, c'est la fonction identité. D'accord ? Donc, en fait, le récurseur, c'est le constructeur. Donc, ça nous donne des équations. True appliqué à AB doit se réduire vers A. False appliqué à AB doit se réduire vers B. 0 appliqué à AB doit se réduire vers A. Successeur de N appliqué à AB doit se réduire en B de N de A et de B. C'est juste complètement mécanique. Et à partir de ces règles, on en déduit des lambda termes qui les satisfont. Par exemple, true, c'est le combinateur k, lambda A, lambda B, A. False, c'est le combinateur k', lambda A, lambda B, B. Et on retrouve aussi des codages raisonnables pour 0 et successeur. Donc, en non typé, en lambda calcul non typé, il n'y a vraiment pas besoin de type inductif prédéfini, d'accord ? On peut tout à fait les définir. Le problème, c'est quand on se met à rajouter les types. Si on rajoute des types simples, par exemple, on n'a pas assez d'expressivité. Parce que si on donne des types monomorphes à true et false, par exemple, eh bien, en fait, on va d'une certaine manière forcer à l'avance un type T qui est le type des filtrages, des ifs and else qu'on peut faire sur ces booléens. Donc, on pourrait avoir des booléens qui permettent de discriminer entre deux entiers, par exemple, mais pas entre deux booléens, ce qui est un peu énervant. Même chose pour les types naturels, entiers naturels. On est obligé de fixer un certain type T. Et du coup, ça limite l'arithmétique qu'on peut définir. On peut définir l'addition, la multiplication, mais pas l'exponentiation, par exemple. Donc il y a même un joli théorème qui est que les fonctions de n dans n définissables en lambda calcul simplement typées sont les polynômes étendus par un test à zéro, essentiellement. Mais pas des fonctions comme l'exponentielle ou fonction Lakerman, enfin des fonctions qui croissent plus vite. Et alors un autre petit miracle, c'est que maintenant, si on est en système F, on l'avait déjà dit au dernier cours, c'est que maintenant on peut quantifier universellement sur le type du résultat du filtrage. Donc le type des booléens, c'est pour toute valeur x de mon ifs and else, pour tout type x qu'on attend pour mon ifs and else, si vous me donnez le cas then et le cas else, je vous renvoie celui des deux cas qui s'applique. D'accord ? Donc on a un filtrage polymorphe sur les booléens et sur les naturels aussi. Et ça rend cette approche par codage dans les lambda termes très expressive en pratique et même en théorie. Donc c'est ce théorème qui est dû à Girard, que dans système F, on peut définir toutes les fonctions des entiers dans les entiers qui sont prouvablement totales dans l'arithmétique de Peano du second ordre, ce qui veut dire en pratique toutes les fonctions que vous avez jamais rencontrées. Enfin, les rares fonctions non prouvables, il faut des diagonalisations pour les construire. Et encore une fois, il y a une manière complètement systématique d'obtenir le codage du type inductif à partir des types des constructeurs. Bon, je passe parce que j'ai plus beaucoup de temps. Et le résultat s'étend au GADT, aux familles inductives. Donc là, il faut être dans F oméga. Et au lieu de quantifier sur le type du résultat du filtrage, il faut quantifier sur une famille. Par exemple, R, ça va être un opérateur de type, de type dans type. Mais on arrive à coder les bons principes de récursion dans F oméga. Alors pourquoi ? C'est pas ce qu'on utilise dans Coq en particulier. Parce qu'il y a deux limitations. Il y en a une, c'est qu'on n'a pas ce qu'on appelle l'élimination dépendante, c'est-à-dire que le type d'une analyse de cas ne peut pas dépendre de la valeur analysée. Et ça, c'est quelque chose qui est très utile, en particulier quand le type, c'est une proposition logique, et l'analyse de cas, c'est sa démonstration. Si vous vous souvenez de cet exemple, pour montrer pour tout x de point boule P de x, vous avez une analyse de cas sur B, B vaut true, B vaut false, le type, justement, c'est P de B, c'est un type, c'est une proposition qui dépend de B. Et donc là, dans ces trois petits points, on va montrer P de false, dans ces trois petits points, on va monter P de true. Et donc, pour y arriver, il faut un éliminateur qui n'est pas de cette forme, bool, flèche R, flèche R, flèche R, mais plutôt bool, flèche R de false, flèche R de true, flèche pour tout B, R de B. D'accord ? Donc ça, c'est l'éliminateur qu'on peut coder en système F, et ça, c'est le vrai éliminateur dépendant dont on a besoin, et qu'on ne peut pas vraiment coder par un... de manière fonctionnelle, parce qu'on aurait un type circulaire, d'accord ? On est en train d'exprimer boule par un type qui a besoin de quantifier sur boule, ou des fonctions de boule dans type, donc ça ne va pas, et on ne peut pas le faire. Et alors, il y a une autre limitation, qui est l'absence de ce qu'on appelle grande élimination, c'est un filtrage qui produit un résultat dans un univers plus haut que celui de la valeur filtrée. Alors, on l'avait déjà vu tout à l'heure avec les W, là où on filtre sur un booléen, et dans un cas, on renvoie le type unit, et dans l'autre cas, type bool, par exemple. Ça, c'est un exemple que j'aime bien aussi. C'est une autre manière de définir les n-uplets, les listes de n éléments de type A, qui consiste à dire, c'est en fait c'est une fonction récursive de nat dans type, et qui va produire des produits emboîtés, d'accord, un produit cartésien à n éléments. Donc si n c'est 0, c'est unit, et si c'est un successeur, c'est un produit d'un A et d'un n-tuple. Et alors si on essaye ça dans un codage fonctionnel, ça mène très rapidement à des incohérences d'univers, d'accord, puisqu'on essaye de renvoyer quelque chose de plus gros que ce sur quoi on analyse. Bien, donc l'heure est presque finie, et donc juste pour conclure avec quelques directions ouvertes, et donc après on aura une pause et le séminaire de Pierre-Évariste Dagan. Alors, une première, disons, difficulté ou interrogation, c'est cette fameuse condition de garde dont j'ai parlé, qui limite les récursions qu'on peut définir par fixed point de manière à assurer la terminaison. Donc la condition de garde, on récurse sur des sous-termes stricts de l'argument x, elle pose problème. D'abord, elle n'est pas toujours très bien définie, il y a eu de nombreuses variantes dans le système Koch, certaines ayant mené à des incohérences d'ailleurs. Deuxièmement, elle est peu compatible avec l'abstraction. D'accord ? Par exemple, si votre argument récursif, c'est un appel d'une fonction g sur x ou sur un sous-terme de x, ben, suivant que G fait diminuer la taille ou au contraire augmenter la taille de X, vous avez une récursion qui est correcte ou qui ne l'est pas. Et ça, ce n'est pas un critère purement syntaxique qui va vous le dire. Encore plus méchant, c'est quand vous faites une récursion donc sur un sous-terme, mettons, et ensuite une nouvelle récursion sur ce résultat, donc ce qu'on appelle la récursion enveloppée. Donc là, on a vraiment beaucoup de mal syntaxiquement à savoir si c'est correct. Alors un exemple, c'est si vous faites la division euclidienne sur les entiers de Peano. Alors ça, c'est la soustraction de deux entiers de Peano, et c'est tout à fait récursif structurel. En revanche, la division, c'est plus subtil, parce que dans le cas non zéro, vous allez récurser, vous allez soustraire Q de manière répétée à votre premier argument, d'accord ? Donc là, vous allez récurser sur P'-Q, et pour que ça se termine, il faut savoir que P'-Q est inférieur ou égal à P'. Et jamais plus grand ou plus gros que P'. Ce qui est vrai, ça se démontre, mais ce n'est pas un critère purement syntaxique. Alors, une solution qui est pas mal étudiée en ce moment, et qui est en partie implémentée dans AGDA, c'est les types avec taille, les sized types. Donc, cette idée d'utiliser le système de type pour garder trace plus précisément de la taille des valeurs de ce type, la taille étant, en gros, ou intuitivement, la hauteur ou le nombre de constructeurs. Et par exemple, pour un inductif T, on peut distinguer T indice I, qui sont les T de taille strictement plus petite que I, pour I entier ou ordinal, et I plus 1, c'est les T de taille inférieure ou égale à I. Et du coup, on peut donner une règle très générale pour le point fixe, qui est, donc, OK, on peut, à partir d'un T, produire un S, si F, ce qu'on peut utiliser dans les hypothèses récursives. Pardon. Oui, donc si sous l'hypothèse que f est appliqué à des t de taille inférieure à i, on peut montrer que le membre droit produit des t de taille inférieure ou égale à i. D'accord. Alors en plus, il faut du sous-typage, bien sûr, pour avoir un peu de flexibilité sur la taille. Et avec des types comme ça, on peut montrer, par exemple, que minus, la fonction moins, préserve la taille de son premier argument. D'accord, le résultat n'est jamais plus grand que le premier argument. Ce qui permet ensuite de conclure que la récursion de div est de cette forme-là et est correcte. Et dans AGDA, ils utilisent un cas particulier de type dépendant pour pouvoir ajouter des annotations de taille sur un type inductif. D'accord, par exemple, SNAT, le type des entiers naturels taillés, avec taille, c'est en fait une famille inductive paramétrée par un type size qui est plus ou moins prédéfini dans le système et que le système sait utiliser ensuite pour aider à raisonner sur la terminaison des récursions. Bon. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que c'est un sujet de recherche qui est encore relativement ouvert, mais qui est intéressant. Donc très très rapidement, on peut avoir d'autres formes de type inductif. Donc, par exemple, il y a les inductifs mutuels. On définit simultanément arbre et forêt. D'accord. Forêt, c'est une liste d'arbres. Un arbre, un nœud, ça porte une forêt. Vous pouvez avoir des inductifs emboîtés. Donc là, on n'a qu'un seul inductif, mais il récurse sur liste de lui-même, qui est équivalent au premier cas. Bon, les deux sont acceptés en Koch et AGDA, mais les principes de récurrence qui sont parfois trop faibles, il faut définir les siens, c'est un peu pénible. Alors, plus, qui fait plus mal à la tête, il y a les types induction-récursion et les types induction-induction. Donc, simultanément, on définit un type inductif et une, qui utilise une fonction de ce type dans un autre type. D'accord ? Donc, simultanément, on définit le type et on définit un match, une récursion sur ce type. Et induction-induction, c'est la même chose, mais avec un type inductif qui est mutuellement récursif avec une famille inductive paramétrée par un A qu'on est en train de définir. Et ça, donc, ça sert typiquement quand on veut modéliser un système de type dépendant, une théorie des types, à l'intérieur d'une autre théorie des types dépendante. Donc il y a un article de Chapman, par exemple, avec un joli titre sur cette approche. « Type theory should eat itself ». Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, et on va faire la pause, donc une autre arme de construction massive qui nous manque un peu, c'est les types quotients. Donc en mathématiques, on a beaucoup de concepts qui sont définis, d'ensembles qui sont définis comme un quotient par un autre ensemble par une relation d'équivalence. Par exemple, les rationnels, c'est le quotient de Z croix Z étoile, donc des entiers naturels et des entiers, pardon, des entiers relatifs et des entiers relatifs non nuls, par la relation R qui dit si quand deux fractions dénotent le même rationnel. Et en théorie des types, il n'y a pas de bonne notion générale de type quotient. Alors on y arrive dans des cas particuliers, si on a une notion claire de représentant canonique du type quotient, à ce moment-là, ça peut être un type sous-ensemble. D'accord ? Q, c'est le sous-ensemble des paires de Z qui satisfont le prédicat Q-canon qui dit que la fraction P sur Q est en forme canonique. D'accord ? Mais ça ne marche pas à tous les coups. Et alors, si on veut aller plus loin, donc justement, il y a des idées intéressantes qui proviennent de la théorie homotopique des types et dont on reparlera le 23 janvier. C'est l'idée qu'on peut définir un type inductif par ses constructeurs et par les égalités que ces constructeurs doivent satisfaire. Donc, par exemple, les entiers modulo 2, d'accord, z sur 2z, on peut dire qu'il y a un constructeur 0, un constructeur successeur, comme d'habitude, et une égalité qui est vraie par construction, qui est que successeur de 0, c'est 0. Et à ce moment-là, quand on fait un filtrage, une analyse de K sur une valeur de type Z2Z, eh bien, il faut prévoir un cas pour cette égalité, et ce cas, en fait, qui va montrer que le filtrage est compatible avec cette égalité 0 égale successeur de successeur de 0. Et donc, c'est essentiellement une preuve que ces deux membres droits vont renvoyer la même valeur dans le cas successeur-successeur de 0 et dans le cas 0. Bon. Donc voilà, ça, c'était juste pour vous donner l'idée. Après, les détails sont extrêmement techniques, et d'ailleurs, il n'y a aucun système d'assistant de preuve qui implémente complètement ça encore aujourd'hui. Et on en reparlera le 23 janvier. Voilà, et juste pour finir, donc maintenant, les transparents donc, sont en ligne, les transparents des cours sont en ligne à peu près 24 heures après le cours, et j'ai mis une petite liste de lecture pour les gens qui veulent aller plus loin, et donc j'ai aussi mis pour les deux premiers cours de la semaine dernière. Voilà, je vous remercie.